culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à notre culte espoir. Je suis ravie de vous retrouver pour vivre cette heure ensemble. Alors avec nous aujourd'hui, Leandro Lopez, mais il me semble que tout le monde t'appelle Léo.
C'est ça.
Bienvenue à toi. Écoute Léo, tu es pasteur de deux églises à Genève, l'église adventiste hispanophone étant toi-même argentin.
Exact.
Et l'église francophone de Vivo, qui est une église qui a la particularité, il me semble, de faire ses cultes les samedis en fin d'après-midi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix ?
Oui, quand Vivo est ouvert, on se rendait compte qu'on ne répondait pas vraiment à un besoin différent que les autres églises à Genève. Et on se disait que le soir, ils pouvaient répondre à un autre public, à d'autres personnes, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont une semaine très chargée, et le samedi matin, de pouvoir se retrouver, à se reposer, ça pourrait donner vraiment ce sens de Shabbat, de sabbat, de vraiment de repos. Et du coup, l'idée, c'était que le soir, se retrouver justement pour vivre sa foi, ça pourrait être quelque chose de très bien. Et je pense que le Seigneur, il nous a bien guidés, parce que finalement, on a doublé le nombre de personnes, les visites... Les nombres de finances aussi, c'était très compliqué à l'époque. Et le Seigneur, il fait bien les choses. Donc, je pense qu'on propose quelque chose de différent que les autres églises, sans prétendre qu'on est meilleur ou pire. C'est simplement que je pense que c'est bien d'avoir cette diversité, surtout dans le monde que nous vivons
aujourd'hui.
Voilà,
plusieurs choix disponibles finalement.
Exact. Donc,
bon, Léo, j'avoue que je suis particulièrement heureuse de t'accueillir ici, parce que c'est toi qui nous as préparé, mon mari brillant et moi, à notre mariage, alors que tu étais encore tout jeune pasteur.
Tout à fait.
Et lors d'une de ces réunions, tu nous as partagé une méditation toute particulière qui, moi, m'a beaucoup touchée. Et donc, j'ai voulu t'inviter à venir à cette émission pour que tu puisses partager cette méditation avec nos auditeurs, quoi. Et est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi tu vas nous parler, justement ?
Je ne sais pas si je vais faire exactement la même chose qu'à cette époque-là, mais je vais parler un peu de justement comment pouvoir écouter notre Seigneur Jésus-Christ et comment, au milieu des difficultés, parfois, les faire confiance et savoir s'accrocher à lui en étant persévérant et sachant à qui on peut regarder au milieu de ces difficultés.
Moi, je me réjouis de te réentendre en tout cas et puis de pouvoir partager ça avec nos auditeurs. Alors avec nous ce matin également, Laetitia, merci d'être avec nous, bonjour.
Merci à vous de m'avoir invitée, avec
et
plaisir.
Avec nous, Marina aussi.
Ouais, bonjour.
Merci d'être là les filles. Et c'est parti, que le Seigneur nous inspire et nous guide pour faire ce temps de culte un temps agréable pour Dieu et puis pour nous tous.
Merci Amandine. Alors nous sommes dans notre chronique Dieu dans ma semaine. C'est dans l'idée, on essaie de partager comment on vit notre quotidien de foi, concrètement. Alors c'est vrai que depuis qu'on a commencé cette chronique, j'ai à plusieurs reprises parlé de prière, parce que ça, la prière, c'est toute ma vie. Je passe énormément de temps à prier dans ma journée, alors c'est un peu comme un dialogue continuel avec Dieu, des petites phrases comme ça, parsemées. Et puis dans ma réflexion encore, cette semaine avec Amandine, je lui disais que finalement, je me rendais compte que ma lecture de la Bible n'était pas aussi équilibrée que mon temps de prière, et que ça me paraissait quand même assez étonnant. C'est vrai que c'est quelque chose que je vis beaucoup moins, et je crois qu'aujourd'hui j'ai davantage envie d'entendre Dieu me parler au travers de la Bible, qu'on appelle aussi la parole de Dieu, et la difficulté que j'ai quand même, c'est que je passe la plupart de mon temps avec Dieu dans ma voiture. Alors imaginez-vous ouvrir la Bible, lire la Bible quand je conduis. Non, non.
Vaut mieux pas, non.
Et dans notre discussion, Amandine m'a rappelé, et ça je l'avais oublié, tu en avais parlé il y a quelques temps, il y avait différentes applications, YouVersion notamment, qui permettent d'entendre la Bible. Alors j'ai fait quelques recherches, et puis j'ai finalement choisi de télécharger les psaumes d'un site internet qui s'appelle emcitv.com, dans la rubrique « Bible en audio ». Assez sympa, les textes sont lui-même avec un fond musical, donc ça donne vraiment quelque chose de très plaisant. Moi qui suis musicienne, c'est quelque chose qui me parle bien, un bon support aussi. Et ça me permet d'entendre la Bible quand je conduis, quand je cuisine, quand mes mains sont occupées, etc. Ou mes yeux aussi, mais que voilà, mon cerveau peut être en capacité d'entendre quelque chose. Donc si tu es dans le même cas que moi, tu peux entendre la Bible sur une application, YouVersion par exemple, hein, une application où tu peux lire la Bible, mettre tes commentaires, tu trouves des versets du jour, etc. Ou bien tu peux te tourner vers des sites internet, il en existe plusieurs, hein, mais comme emcitv.com, où tu trouves notamment un contenu Bible audio. Alors cette semaine pour moi, ça sera l'écoute des psaumes, et je crois que la lecture et l'écoute de la Bible nous apportent une vraie richesse, hein, dans notre quotidien, et une orientation pour notre vie.
Ouais, tout à fait. Merci pour ce partage, Marina. Merci. Alors, Laetitia, tu aurais une promesse du jour pour nous.
Oui, alors, de nos jours, avec toutes les technologies actuelles, comment se perdre? Qu'en est-il de cette petite voix intérieure qui, bien souvent, nous dit si nous sommes ou pas sur la bonne voie? Vous pouvez l'appeler conscience, logique, Siri ou Alexa, mais je sais très bien d'où vient cette petite voix. La promesse du jour, c'est que Dieu est toujours avec vous. Peu importe les circonstances, qu'il est cette petite voix qui vous guide, un peu comme notre GPS. Maintenant, faut-il encore entendre et écouter cette voix? Et quand vous irez à droite ou bien à gauche, vos oreilles entendront derrière vous la voix qui dira, c'est écrit dans Ésaïe 30, 21, « C'est ici le chemin, marchez-y ». Alors, je vous invite à tendre l'oreille et à écouter cette petite voix de Dieu, votre petit GPS quotidien, qui est là pour vous conduire sur le bon chemin.
Amen. Amen. Alors perso, moi Laetitia, je suis pour ma part très mauvaise en orientation. Donc moi, cette voix qui me guide, ça me parle particulièrement. Même perso, rien qu'en suivant le GPS, j'ai quand même déjà réussi à me perdre. Donc voilà, il y a des fois, c'est un peu pareil finalement dans ma vie, au niveau symbolique. Je planifie mon itinéraire de vie, mes projets, quoi. Il est tracé à partir de ma vision de moi-même, ce que je pense que je suis capable ou incapable de faire, de mes envies, du monde comme je le perçois. Et parfois, je me perds dans ces itinéraires. Et ma plus belle décision, finalement, selon moi, a été quand j'ai décidé que mon GPS, ce serait mon Dieu. Et ça me fait penser à une chanson de Matt Marvan que j'ai découvert il y a peu, qui s'appelle « Jésus est ». Et j'ai été interpellée par les paroles qui disent notamment « Jésus est l'exemple parfait ». Je comprends de ces paroles que Jésus est celui qui marche et qui me montre le chemin. Et j'ai envie de louer avec toi aujourd'hui, Dieu, mon guide, mon GPS, cet exemple parfait. Et je t'invite à écouter et à même à chanter si tu connais ce chant « Jésus est ».
Ressuscité, il a vaincu la mort. trouver son trésor. Humble serviteur, humilié, que le Père a nommé grand roi éternel, acclamé du ciel par tous les saints et tous les anges. À lui la victoire, l'honneur et la gloire. Jésus est le Sauveur parfait.
Jésus est la joie de vivre de Barbara Trichard, la chanteuse du prochain chant. Elle proclame « Je marche dans la lumière, rien ne peut m'arrêter. Je veux proclamer avec elle que Jésus est la source de mon espoir, de ma joie. Et toi, est-ce que ces paroles font écho dans ta vie ?»
Demande où me vient mon assurance, pourquoi je souris même quand il fait gris, et pourquoi je garde confiance quand tout semble mal tourner. Vois-tu, j'ai décidé, même dans les difficultés, de garder les yeux tournés vers le ciel. Ma paix me vient droit d'en haut et elle porte un nom.
C'est Jésus qui me donne le sourire.
Quand j'ai enfin trouvé le sens de mon avenir et de mon existence, je marche dans la lumière, rien ne peut m'arrêter. Ma sérénité ne saurait être perturbée par les contrariétés, tracas quotidiens. Face aux défis de la vie, j'ai ma solution.
C'est Jésus
qui me donne le sourire.
Celui qu'il m'a donné. Joie de la vie.
Merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ta présence dans nos vies. Ensemble, nous voulons élever ton nom. C'est ce que « Sois exalté » veut dire. Nous voulons dire haut et fort qui tu es et te rendre toute la gloire. Que maintenant, à travers ce chant, la paix de Dieu puisse te remplir. Que Dieu puisse te révéler qui il est et qui tu es en lui.
Majesté.
Alors aujourd'hui, j'ai une immense joie de vous présenter mon amie Laetitia. Coucou Laetitia.
Coucou.
Bienvenue dans cette chronique qui s'appelle « Dieu agit ».
Merci.
On va commencer par te présenter. Donc Laetitia, tu es une jeune femme dynamique, mariée, oui. Maman de 5 enfants.
Oui.
Wow.
Sage-femme.
Oui.
Et chrétienne.
Yes.
Est-ce qu'on peut dire autre chose sur toi ?
Nouvellement entrepreneuse.
Nouvellement entrepreneuse. Bien, merci. Alors, tu vas nous partager une expérience que tu as vécue, je crois, l'année passée.
Oui.
Un temps où Dieu a été présent dans une forte tempête de ta vie.
Oui, tout
Alors,
à fait.
Alors, on t'écoute.
Merci. D'abord, j'aimerais juste remercier Dieu de me permettre aujourd'hui de témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie. Et en fait, voilà, je veux dire que souvent, on écoute... Enfin, moi, perso, je suis très touchée par la louange. Et puis, quand j'entends les témoignages autour de moi, des gens, je me dis, waouh, ils ont des témoignages à raconter. Et moi, c'est quoi mon témoignage? Et puis, un jour, j'ai écouté ce chant qui s'appelait « Viens toucher ma vie ». Et vraiment, ce chant-là, je le chantais, mais comme une prière, quoi. Et je me disais, mais Seigneur, mais viens toucher ma vie, quoi. Touche la mienne, que moi aussi, j'ai des choses à dire de ce que tu as fait pour moi. Et ben quand on demande à Dieu, il répond. donc voilà, donc ben, il y a une année, j'ai pu expérimenter la réponse à ma prière. On ne connaît pas les plans que Dieu a pour nous dans nos vies, mais l'ennemi, lui, il les connaît. Et parce qu'il sait, et c'est écrit dans la Bible, que Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Et lui, l'ennemi, il fait tout pour éviter qu'on puisse réaliser ces plans que Dieu a pour nous. Parfois, Dieu permet des situations, des épreuves dont il sait que nous allons sortir grandis dans nos vies et qui va pouvoir lui-même se réaliser de manière tellement puissante et transformer nos vies. Et concrètement, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait pour nous. L'ennemi a voulu frapper fort à travers ma santé, notamment. Donc, en fait, un jour, j'ai dû aller à l'hôpital puisque j'avais des douleurs thoraciques, du mal à respirer. J'étais vraiment pas bien et je suis allée à l'hôpital aux urgences. Et donc, on me fait des examens, on me fait un scanner thoracique pour voir ce qui se passe, voir si je ne suis pas en train de faire une embolie pulmonaire. Et puis là, j'ai le médecin qui vient me voir dans le couloir des urgences. Avec un joli petit message, puis qui me dit bah, « Ma petite dame, voilà, on a fait les examens, alors vous avez une péricardite, vous avez du liquide autour du cœur, du liquide autour des poumons, et il va falloir bah, qu'on vous soigne. Par contre, il y a aussi des choses qu'on a vues qui n'étaient pas là avant, et il va falloir aller creuser un peu plus loin. On va vous adresser au chirurgien thoracique à Annecy, et on fera des examens complémentaires, voir ce qui se passe. » Et puis là, il me laisse comme ça, dans le couloir. Il me dit au revoir, puis il me dit, on va vous hospitaliser. Voilà, donc moi, je suis avec cette information qui m'a totalement chamboulée, en me disant, ben voilà, quelque chose qui n'était pas là avant, mais visiblement assez préoccupant pour qu'on m'adresse à un chirurgien thoracique dans une autre grande ville. Et là, d'un coup, je suis submergée, je suis dans un état... Je suis ramassée à la petite cuillère. J'appelle mon mari en larmes et là, je suis dépitée. Je suis dépitée de ce qui se présage, en fait, parce que du coup, là, l'ennemi, il a semé la peur, en fait. J'en savais pas plus, mais j'avais juste peur. Et puis là, je suis arrivée dans ma chambre d'hôpital. Je me suis clairement effondrée par terre. Et là, j'ai dit à Dieu, mais Seigneur, je sais pas ce qui est en train de se passer. Et j'étais encore sonnée, mais je dis, mais moi, là, je peux pas, en fait. Je vais pas y arriver. Là, c'est toi qui dois prendre le relais parce que clairement, moi, je ne vais pas pouvoir réussir. Je suis maman de 5 enfants. Comment je vais faire? Là, si on m'annonce un truc grave, je fais quoi? Je fais comment? Et littéralement, je me suis effondrée par terre dans ma chambre d'hôpital en donnant tout à Dieu, en lui disant, écoute, là, c'est ma limite, je ne peux pas, je ne pourrais pas. Il n'y a que toi qui vas pouvoir faire quelque chose pour moi. Et voilà, ça a été le début de notre aventure.
De ton aventure avec Dieu.
Exactement.
Ok. Alors, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui s'est passé à partir de ce moment-là ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dieu s'est manifesté de plein de manières différentes dans ma chambre d'hôpital. Déjà, il a placé... donc nous, mon mari et moi, on a, enfin, ça fait 12 ans qu'on est tous seuls dans la région ici avec nos 5 enfants. Et j'ai une de mes sœurs qui a emménagé il y a une année vers chez nous et qui est aide-soignante. Et elle a commencé à faire des petits remplacements à l'hôpital. Et déjà, pour commencer, Dieu l'a placée dans mon service, dans celui où j'étais hospitalisée. Donc là où je me sentais seule, dépourvue, où j'avais peur, j'avais finalement ma sœur tous les jours dans mon couloir qui était là et qui était là pour me donner le petit déj, qui était là pour voir si j'allais bien, qui était là, ne serait-ce juste la présence déjà d'avoir quelqu'un, un visage familier. J'ai eu la chance d'avoir aussi mes frères et sœurs de l'église qui priaient beaucoup pour moi. Vraiment, je me suis sentie mais portée par la prière, mais comme jamais. Je faisais aussi partie du groupe de louanges de mon église, donc avec les musiciens. Ils sont tous venus dans ma chambre, on a prié, on a loué le Seigneur. Les louanges résonnaient jusque dans le couloir de l'hôpital. C'était vraiment un temps mais magnifique, en fait. En fait, dans ce que j'ai vécu avec Dieu dans cette chambre d'hôpital, c'était vraiment un temps à part. Un temps hors du temps, finalement, parce que j'avais une proximité, finalement, avec Dieu que j'avais jamais eue. Pour la première fois, j'ai vraiment commencé à lire ma Bible en m'y plongeant vraiment. Pas en me disant, je m'arrête deux secondes, je lis ma Bible vite fait, puis je passe à autre chose. Non, pour la première fois de ma vie, j'ai vraiment pu vraiment lire des versets, me les approprier. Et surtout, j'ai pu écrire mes premières louanges. Dieu m'a mis des choses à cœur. Et il a aussi exacerbé cette créativité en moi. Et voilà, j'ai pu écrire mes premiers chants. Et oui, c'était un temps vraiment juste magnifique parce que j'avais jamais eu cette proximité avec Dieu. Et vraiment, de se sentir portée comme ça, il faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est de vivre la gloire de Dieu.
Amen. Et tu disais que l'ennemi, tu disais ça souvent, hein, l'ennemi s'est tiré une balle dans le pied quand il t'a amené cette épreuve, en tout cas quand tu l'as vécu. Pourquoi ?
Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé déjà, c'est que quand... dès que les médecins ont commencé à m'annoncer des choses, en fait, à chaque fois que le médecin ouvrait ma porte, il m'annonçait un diagnostic de plus en plus... Enfin, de pire en pire. On a commencé par me dire, voilà, donc ce truc qu'on a vu qui n'était pas là avant, va falloir qu'on aille le ponctionner, on va aller voir ce que c'est, on va vous mettre un tuyau dans la gorge, on va aller le chercher. Ensuite, on m'a dit, on va vous faire... passer un PET scan, donc c'est ce scan radioactif pour aller voir si vous n'avez pas des cellules cancéreuses et des métastases. Enfin, à chaque fois que le médecin passait la porte, vraiment, c'était un coup de massue en plus à chaque fois. Et puis moi, je me disais, mais Seigneur, Dieu m'a mis sur terre pour quelque chose, il m'a donné 5 enfants pour quelque chose, c'est certainement pas pour me laisser abattre par l'ennemi et par la maladie. Et puis du coup, je suis partie vraiment en guerre contre l'ennemi. Et du coup, j'ai au lieu de me laisser abattre et de pleurer sur mon sort, je me suis dit, ok, je dis, attends, là, tu veux frapper fort, là, tu veux me toucher au plus profond, tu veux toucher ma famille, tu n'y arriveras pas. Et je disais que oui, c'est tirer une balle dans le pied tout seul. Et clairement, je lui disais comme ça, et je dis, mais tu t'es tiré une balle dans le pied tout seul parce que tu sais quoi, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de me lever, tu es en train de me réveiller, tu es en train de lever ma famille et tous les gens autour de moi. Et vraiment, on est parti en guerre contre l'ennemi. Et ça, c'est bon. C'est bon aussi de se sentir puissant comme ça avec Dieu et de dire à l'ennemi... de retourner là où il vient.
Et cette bataille, alors, est-ce qu'elle a été gagnée ?
Cette bataille, elle a été gagnée. Elle a été, elle a été remportée haut la main. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc à chaque fois qu'il me faisait des examens, d'abord, j'aimerais juste rajouter quelque chose, c'est que parfois, en fait, quand on traverse la tempête, là, en l'occurrence, pour moi, c'était un diagnostic médical, mais ça aurait pu être plein d'autres choses. Puis, je vous assure, j'ai encore des tempêtes aujourd'hui. de d'autres domaines, mais en fait, ce que j'ai envie vraiment de dire aux auditeurs et à tous les gens qui nous écoutent, c'est que de s'accrocher à Dieu, vraiment, parce que de rester fixé sur lui et c'est lui qui va nous tirer vers le haut. Et donc oui, la bataille a été remportée. Par exemple, quand j'ai fait ce PET scan, ce scan radioactif, le médecin est venu me voir, il m'a regardé et il m'a dit, vous voyez cette feuille, il m'a montré une feuille blanche. Et il m'a dit, mais vous voyez cette feuille ? Je dis oui. Il me dit, elle est blanche. Il me dit, d'habitude, j'ai 10 000 choses écrites dessus, mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien, je vois rien. Tout est normal. Et puis là, forcément, je pleurais à Dieu. Je le remerciais de tout mon cœur parce que même moi, même si j'étais, j'étais en combat vraiment avec Dieu en disant, mais oui, Seigneur, tu vas m'aider. Tu m'as déjà guéri. Et puis vraiment, c'était une consigne claire que j'avais donnée autour de moi. J'avais dit aux gens qui étaient au courant de ce que je traversais. Je leur disais, mais vraiment, parlez pas de maladie. Proclamez juste que Jésus m'a déjà guéri, que tous les symptômes sont partis et que tous mes examens sont normaux. Et puis dans chaque examen que je traversais, J'avais un ami du groupe de louanges qui a mis en musique le psaume 23. Et puis du coup, je me chantais ce psaume dans chaque examen que je passais, à chaque endroit. Et vraiment, ça m'a porté à traverser chacun de ces examens. Et puis quand je suis revenue dans l'hôpital, parce que c'était inter-hôpital ces examens, quand je suis revenue dans le service d'hospitalisation, j'ai dit au médecin, « Ah, mais regardez, ma feuille, elle est blanche, tout va bien, tout va bien. » Puis il me regarde comme ça, il me dit, « Mais non, mais c'est pas possible. Il y a 3 chirurgiens thoraciques qui ont vu vos clichés. Les 3 ont dit qu'il fallait aller faire cette ponction, cette biopsie, aller voir ce qui se passe, c'est pas possible que là, il n'y a rien. » Il m'a dit « Non, vous sortez pas, vous restez là. On va attendre que le premier radiologue qui vous a fait le scanner revienne pour qu'on refasse ce scanner et pour qu'on voie ce qui se passe. » Et puis mon médecin, je le rendais fou. Je lui disais « Mais non, non, je vous assure, dans le nom de Jésus, je suis guérie. » J'étais dans ma chambre d'hôpital avec mes t-shirts « Jésus pour la vie », c'était mon t-shirt de baptême. Je me baladais comme ça dans mes couloirs d'hôpital. À chaque fois qu'il rentrait, le médecin, il m'annonçait un truc pire. Je lui disais « Non, je vous crois pas, je suis guérie. » Non, 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 vous mentez, c'est pas possible, dans le nom de Jésus. Il en devenait fou, le pauvre. Il voyait les prières de mes enfants sur les murs. Et donc, du coup, quand je suis revenue avec cette page blanche, il m'a dit non, non, c'est pas possible, il n'y croyait pas. Et donc, j'ai attendu, j'ai refait cet examen avec le même radiologue, et toujours en louant mon Dieu à chaque seconde. Et puis là, le radiologue, il vient, il enlève ses lunettes, véridique, hein. Il enlève ses lunettes, il me regarde, il me dit mais je comprends pas, il n'y a plus rien. Il me dit, vous êtes sûr, vous n'avez pas eu de traitement, vous n'avez pas eu. Je dis, mais non, mais tous les traitements, le seul traitement que j'ai eu, c'était un médicament par rapport à la péricardite. Je dis, vous avez tout mon dossier. Et non, non, j'ai rien pris d'autre. Et puis, il n'en croyait pas ses yeux. Il a remis ses lunettes, il est parti. Moi, je suis montée dans ma chambre d'hôpital. Je cherchais le médecin. Je lui dis, vous voyez, je vous avais dit, je suis guérie, j'ai rien, tout va bien. Puis, il m'a laissé partir d'un air, allez, vas-y, rentre chez toi. Parce qu'il ne savait pas quoi me dire, en fait. Mais voilà, moi, je savais. Parce qu'il savait pas. Dieu était là pour moi. Et qu'il m'a porté là-dedans, il m'a sauvé.
Amen, amen. On sert un Dieu de miracles. Hein. Ouais. Yes. Merci en tout cas, Laetitia, pour ce témoignage puissant aujourd'hui.
Avec plaisir.
Ouais. Merci.
Eh bien, Léandro, est-ce que tu voudrais nous partager maintenant ce que tu as préparé pour nous?
Oui, volontiers, merci pour cette occasion de pouvoir partager aussi ce que je vis avec le Seigneur et comment le Seigneur il nous touche. Je ne sais pas vous quand vous étiez petite, mais il y avait un truc que j'ai détesté quand j'étais plus jeune, c'était perdre. C'était pas facile dans la vie perdre et peu importe, j'avais un pote à moi qui disait « Moi je viens pour m'amuser, mais je m'amuse que quand je gagne, donc il faut gagner. » Et parfois je me dis dans la vie chrétienne, c'est comment? Est-ce que dans la vie chrétienne, comme dans le témoignage qui a été raconté par Laetitia tout à l'heure, est-ce qu'on gagne toujours? Est-ce qu'il n'y a pas des moments de tempête qu'on ne s'attendait pas? Et moi, la réflexion que je me suis faite pour partager avec vous, c'est « Seigneur, comment être vainqueur dans la vie chrétienne ?» Et je pense que c'est pour tout le monde. Et comment être vainqueur, surtout, quand il y a des tempêtes? Parce que être vainqueur face à quelqu'un qui est plus petit que moi, quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences, quand tout va bien, c'est assez simple. Par contre, être vainqueur devant un géant, être vainqueur devant quelque chose qu'il me dépasse, là tu te rends compte que tu es impuissant et que tu as besoin d'un Dieu tout puissant. Donc j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve en Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. C'est l'histoire dans laquelle Jésus-Christ il va marcher sur la mer. Je vais spoiler le texte. Mais il dit, au verset 22, « Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renvoyait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur une montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là encore seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Cette histoire-là, il me semble qu'il y a quelques éléments qui sont fondamentaux pour être vainqueur dans la vie chrétienne. Le premier élément, il me semble que se trouve dans le verset 22, et lisez bien ou écoutez bien ce qu'il dit. Ensuite, il obligea. What? Le Dieu puissant, le Dieu de l'univers, le Dieu d'amour qu'on prêche autant, il oblige ses disciples à passer de l'autre côté? Est-ce que ça ne vous interpelle pas que Dieu il puisse nous obliger à faire quelque chose? Alors, je ne peux pas expliquer pourquoi, j'aurais pu, mais on a très peu de temps pour aller droit au but. Et moi, le premier enseignement, c'est que si le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Dieu Tout-Puissant est mon créateur, mon père, mon frère par adoption, il me donne un ordre, peut-être la première chose pour être vainqueur, c'est apprendre à obéir. Et je pense que l'obéissance, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, il manque énormément dans nos mondes, dans notre société telle que nous la vivons. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous dit quelque chose à faire, on se dit, mais attends, mais pourquoi tu te mêles de ma vie? Qui tu es pour me dire ce que je dois faire ou pas? Et j'entends. Par contre, quand tu as une relation avec quelqu'un, que tu sais que cette personne, il t'aime et qu'il souhaite le bien pour toi, bah, je pense que tu vas être beaucoup plus à l'écoute et tu vas obéir beaucoup plus facilement. Et là, maintenant, avec mes enfants, bon, toi, tu as 5 et moi, j'ai que 2. Je le vois avec ma fille. Parfois, elle obéit, pas parce qu'elle a envie, sinon parce qu'elle sait que je suis en train de lui dire le meilleur pour elle. Et je pense que quand nous voulons être vainqueurs, il faut apprendre à obéir. Les disciples, ils vont obéir, ils vont passer de l'autre côté. Et là, il vient le 12e élément. Après avoir envoyé les foules, Jésus, il monta à l'écart. Le soir venu, il s'est mis à prier. Vous voulez le 12e élément? C'est simple, c'est la prière. Et toi, tu as parlé de ça. De te mettre à l'écart dans une chambre toute seule et dire, eh bien, Seigneur, là maintenant, c'est entre toi et moi. J'aimerais te dire ce qui ne va pas. J'aimerais te dire comment ça se passe. Alors, c'est très intéressant dans le texte parce que Jésus-Christ, sans rentrer dans les détails de la Trinité, de ses dieux, en trois parties, que c'est tellement compliqué pour nous expliquer. Jésus, il était Dieu, mais il était homme sur terre. Et malgré tout, Jésus-Christ, il prenait le temps de prier à l'écart. Et tu vois, tout à l'heure, tu témoignais et tu disais, moi, j'ai prié tout le temps avec le Seigneur, je parle dans ma tête, je suis comme toi. Tout le temps, je suis en train de parler avec Dieu dans ma tête. Et parfois, à haute voix, les gens, ils doivent se dire, lui, il est fou. Mais c'est comme ça que j'ai vu ma foi. Mais j'ai compris il y a quelques années qu'il fallait aussi que je puisse créer un espace, temps, pour pouvoir prier et rencontrer mon Dieu. Tu vois, c'est comme ma femme, je peux parler toute la journée avec elle, mais si je ne passe pas ce temps de qualité avec elle, il va me manquer quelque chose. Donc, pour moi, ces moments de prière, c'est fondamental pour être vainqueur dans la vie chrétienne. Parce que je vais apprendre à obéir à ces moments-là grâce à la prière aussi. Troisième élément. Et là, je m'identifie avec les disciples. Verset 24, il dit qu'ils vont monter sur un bateau. Apparemment, il y a très longtemps, Tertullien, un père des églises, au 12e siècle, il a dit que notre vie, il pourrait ressembler à un bateau. Et qu'on est tous dans une destination en train de naviguer quelque part vers la destination de notre Canaan céleste, quoi, de ces paradis, de ces lieux sans mort, sans péché, sans douleur, sans souffrance, sans maladie, sans Covid. Et c'est très intéressant parce qu'il dit, ben voilà, quand nous sommes dans la tempête, quand nous sommes dans le lac, la tempête, elle arrive et parfois on ne le voit pas venir. Parfois le vent, il souffle à notre faveur, il y a cette brise, il y a le soleil, il fait beau, tout va bien, quoi, comme dans notre vie. Cependant, il y a un moment que le vent, il commence à être contraire, les nuages, ils commencent à paraître, et là, il y a la tempête qui se déchaîne. Et je pense que dans notre vie, c'est plus ou moins pareil. Dans la vie chrétienne, dans la vie professionnelle, dans la vie des couples, en tant que parents, en tant que chrétien, c'est ça. Parfois, on est tout au nord, tout va bien, et d'un seul coup, paf, la tempête, et on ne comprend pas, quoi. Tu fais ces références, même si les océans se déchaînent, je sais que je les traverserai avec toi. C'est exactement de ça que le texte, il dit. Le problème, c'est que là, on est au chapitre 14. Et vous dites, et alors? Bah, avant le chapitre 14, il y a le chapitre 8. Les disciples, ils sont malmenés dans cette tempête, comme nous, on peut être malmenés. Mais c'est très intéressant qu'eux, ils avaient eu déjà une tempête dans laquelle le Seigneur il va apaiser cette tempête. Et il était là en train de dormir. Et là, j'imagine que ses disciples, ils se disent, mince, quoi. Le Seigneur, il n'est pas là. Et s'il était là? Et combien de fois ça nous arrive dans notre vie qu'on s'est dit, mais Père, si tu serais là, quoi, je ne te sens pas dans ma vie. Et combien de fois ça nous touche au plus profond de nos êtres, parce qu'on s'est dit, pourquoi je ne peux pas te ressentir en ce moment, Père? Mais là, il y a un détail pour moi, il y a une perle dans le texte. Au verset 25, il dit « à la quatrième veille de la nuit ». Quand j'ai étudié le texte la première fois, et je pense que c'est ce que je t'avais partagé, ça fait très longtemps, je me suis dit, mais c'est pourquoi Mathieu prend la peine d'écrire à quel moment de la nuit c'est ça? C'est bête, quoi. C'est gaspiller des paroles pour rien. Alors, les Juifs, à l'époque, ils divisaient la nuit en quatre veilles. De 18h à 21h, c'était une veille. De 21h à 24h, c'était la douzième veille. De 24h à 3h du matin, c'était la troisième veille. Et de 3h du matin à 6h du matin, c'était la quatrième veille. Ces disciples-là, ils étaient partis au coucher du soleil et ils commencent à traverser. La tempête se déchaîne et ces disciples-là, ils n'avaient pas peur d'une simple tempête. Si l'eau, il rentrait, il la sortait. C'était si simple que ça. Mais c'est comme nous, quand il arrive un petit souci, un petit rhume, une petite chose dans notre vie, bah, on s'est dit, mais je ne vais pas prier le Seigneur pour ça. Par contre, si j'ai un cancer, oui, là, je dois prier le Seigneur. Qui t'a dit ça? Le Seigneur, il faut le prier dans tout moment. Et à n'importe quel moment et pour n'importe quelle situation. Alors, ces disciples-là, ils se sont déjà qu'ils sont perdus. Ça fait plus de 6, 7, peut-être 9 heures qu'il se bat au milieu d'un lac, qu'il était complètement déchaîné. Et tu vois, dans notre vie, ça pourrait être tout simplement qu'on se bat un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 ans, 6 ans, avec une même situation. Il n'a pas de solution. Là, tu as l'impression que Dieu il t'a quitté, que tu as fait quelques fautes ou que tu as commis une erreur pour qu'il ne te réponde pas. Et peut-être que tu te sens vraiment que tu ne vas pas être vainqueur. Mais c'est intéressant que c'est la quatrième veille. Il y a un dicton en anglais que je serais incapable de le dire, mais qu'avant que le soleil arrive, c'est qu'il y a le moment le plus sombre de la nuit. Jusqu'avant le lever du soleil, apparemment, c'est le moment le plus sombre de la nuit. Et si c'est vrai, et je ne sais pas si c'est vrai, mais on s'en fiche parce que c'est très bien pour le texte. Si parfois nous sommes en train de passer par ces quatrièmes veilles, peut-être aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous écoute, qui nous regarde, qu'il se dit, mince quoi, je passe par ces quatrièmes veilles. Ça fait longtemps que je me bats avec quelque chose. Et voilà, je n'arrive pas. Bah, si c'est le moment le plus sombre, dis Alléluia, Amen, gloire à Dieu, parce que c'est là que notre Seigneur Jésus-Christ il va apparaître. C'est dans la quatrième veille, dans le moment le moins attendu, c'est là qu'il va apparaître. Et j'ai dit gloire à Dieu parce qu'il sait quand il doit apparaître. Par contre là, et c'est le troisième point, c'est de persévérer et de faire confiance. Parce que Jésus, il est apparu d'une façon qu'il n'attendait pas. Et ça, je pense que pour être vainqueur, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que j'imagine aujourd'hui, si j'étais au milieu d'un lac comme ça, j'ai dit, bon, ils vont m'envoyer un hélicoptère, quoi. Mais je ne m'attends pas qu'un mec, il arrive en marchant par les eaux, quoi. Vous voyez qu'il ne l'attendait pas. Et d'ailleurs, la preuve, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai dit, c'est un fantôme. Et là, il dit, il pousse des cris. Vous imaginez ces gars-là, costauds, forts, dans le milieu de la mer, se mettre à crier parce qu'il n'attendait pas Jésus-Christ de cette manière-là. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on doit accepter en tant que chrétien, que parfois, les victoires que nous attendons ne sont pas les victoires de notre Seigneur. Et ça, ce n'est pas être soumis, c'est être vraiment en relation avec le Père, en sachant que c'est lui qu'il sait qu'est-ce que c'est le mieux pour moi et ma vie en ces moments. Et que peut-être la guérison, ça ne fait pas partie de ses plans. Que peut-être la solution que j'attends, ce n'est pas celle-là qu'il a prévue. Parce que lui, il a tout le dessein. Il n'a pas qu'un parti. Alors, j'ai conclu avec ça parce que c'est quand même extraordinaire pour être vainqueur. On a dit, apprends à obéir, apprends à prier. Et ensuite, on a dit, faire confiance et persévérer. Mais il y a un quatrième élément, et je ne peux pas m'en passer, désolé, mais c'est extraordinaire. De tous les disciples, il y a un seul qui va les dire, écoute, là-bas, il y a un gars que je le veux apaiser en tempête. S'il est capable d'apaiser une tempête et là maintenant il est en train de marcher sur la mer, je ne vais pas rester dans ces bateaux-là remplis de difficultés. Moi, je vais avec lui parce que lui, il ne va pas couler. La barque, peut-être. Et qu'est-ce qu'il fait Pierre? Il dit, Seigneur, si c'est toi, appelle-moi que je vienne à toi. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il a plouvé l'invitation. Il lui dit, viens. Verset 29. Viens. Et Pierre, il s'est mis à descendre et voilà, j'aime beaucoup cette image-là de le voir Pierre mettre un pied dans l'eau et commencer à marcher petit à petit. Il est en train de marcher au milieu d'un lac, au milieu d'une tempête vers le Seigneur Jésus-Christ. Et dans un moment, il commence à couler à nouveau. Il se dit, mince quoi, c'est la défaite. Et c'est là qu'il s'est dit, attends, qui je suis en train de regarder? Et toi, tu as parlé de ça. Hébreux chapitre 12, verset 2, il dit « Les cieux fixés en Jésus-Christ ». Si nous voulons être vainqueurs, il faut toujours avoir le regard posé sur Jésus-Christ. Quand je regarde l'administration de mon église, quand je regarde les pasteurs, quand je regarde les membres, les diacres, les anciens, ou peu importe qui il y a dans l'église, et si je me concentre sur ces personnes-là, c'est sûr et certain que je vais couler. Mais mon regard, il doit être fixé sur Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que si pour ces choses de la vie, on coule, on peut crier comme Pierre l'a fait. Et on peut lui dire, Seigneur, sauve-moi.
Ouais.
Et là, il viendra à notre secours. Mm-hmm. Voilà comment je pense qu'on peut être victorieux dans notre vie chrétienne.
Amen.
Amen.
Bah, écoute, merci infiniment, Léo, pour ce partage. Parce que, effectivement, moi, ça m'a replongé d'il y a 6 ans, quand tu l'avais partagé avec moi, et qui m'avait beaucoup encouragée. Et j'aimerais bien savoir ce que vous, Marina, Laetitia, vous avez envie d'en ressortir. Est-ce qu'il y a une chose peut-être que ce que Léo a partagé, vous avez envie de garder particulièrement dans votre cœur aujourd'hui?
Pas tout en même temps.
Vas-y.
Il y a plusieurs choses très intéressantes, mais peut-être celle-ci qui m'a pas mal parlé, c'est que Dieu, parfois, quand il nous amène une tempête, on en a déjà vécu une avant, peut-être un peu plus petite. Et je crois que c'est ça aussi hein, qui construit notre foi. On vit des expériences avec Dieu, on passe par des chemins difficiles, et puis il nous en sort, et puis on consolide notre foi petit à petit, et on se prépare aussi pour des tempêtes peut-être un peu plus grandes.
Amen.
Oui, moi, il y a beaucoup de choses forcément qui m'ont parlé. Comme je disais tout à l'heure, on vit encore des tempêtes. Hein. Après, tous dans nos vies, à différents stades, on a nos tempêtes chacun. Et oui, moi, je veux garder le fait de garder le regard fixé sur Jésus en tout temps, en fait.
Amen.
Parce qu'il y a des fois où ce regard, il se floute un petit peu et qu'on regarde aux circonstances, en fait, et on regarde aux défis, ou on regarde à la tempête. Et je vais vous partager quelque chose que je dis à mes enfants. C'est, tu vois, bah là, même s'il y a la tempête, là, il pleut, dehors, le temps, il se déchaîne, les arbres se plient presque, il pleut, mais il y a toujours un arc-en-ciel qui vient après la pluie. Et ça, je pense que cet arc-en-ciel, il vient, mais toujours. Et que, ouais, effectivement, il faut garder les yeux fixés sur Jésus, parce que c'est ce qui va nous aider à atteindre cet arc-en-ciel.
Amen.
Voilà.
Et puis moi, ce que je garderais aussi, c'est, j'aime bien quand j'imagine Pierre là, aller sur l'eau. Il fixe des yeux Jésus, il est à fond. Et puis à un moment donné, donc comme tu disais, il lâche des yeux Jésus. Et là, il se dit, en fait, il se dit, mais je vais couler. Et là, je me dis, moi, je me reconnais un peu où des fois, Jésus, il me lance dans des trucs presque miraculeux, quoi. Je me dis, mais ça, c'est un truc de fou qui me fait vivre. Et en fait, je vais dedans. Et après, eh ben, je commence à vouloir le faire avec mes propres forces. Genre, moi, je peux marcher sur l'eau toute seule sans regarder Jésus, quoi. Et là, je me dis, ben, je peux toujours revenir. Et puis, il est bon, quoi. Il va me dire, bah, je suis là, t'inquiète pas, et puis tu vas pouvoir revenir sur l'eau. Mais rappelle-toi que c'est par ma force, par contre, et pas par la tienne.
C'est ça,
c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup interpellée et qui m'avait particulièrement touchée et qui m'a permis de traverser certaines tempêtes parce que j'avais reçu ça il y a 6 ans. Donc voilà, merci beaucoup, Léo. Et sois béni dans ton ministère, écoute. Et je pense, là, on a eu pas mal de choses... On a beaucoup entendu de choses et je pense qu'on a besoin d'un petit temps pour pouvoir réfléchir et puis faire prendre ce temps de silence maintenant avec le Seigneur. Et pour ce temps, je vais te proposer d'écouter une musique et puis de pouvoir réfléchir pendant que cette musique elle passe. C'est une musique qui est en anglais, donc j'aimerais juste te traduire les paroles. En fait, c'est un chant qui est inspiré directement de cette histoire dont on vient parler. Et la traduction qui est proposée, elle est proposée par le journal Le Monde, je trouvais très bien, je vous la lis. Tu m'appelles au-dessus des eaux, dans l'inconnu, là où les jambes peuvent nous trahir. Et c'est entouré de mystères que je t'ai trouvé, au plus profond des océans, que se tiendra ma foi. Et je dirai ton nom, et porterai mon regard au-dessus des vagues. Quand le niveau des océans montera, mon âme reposera entre tes bras. Car je suis à toi, et tu es à moi. Les profondeurs regorgent de ta grâce, ta main souveraine sera mon guide. Là où mes jambes peuvent me trahir et où la peur m'assaille, tu n'as jamais échoué, et c'est pas aujourd'hui que ça la changera. Alors je dirai ton nom et porterai mon regard au-dessus des vagues. Quand le niveau des océans montera, mon âme reposera entre tes bras, car je suis à toi et tu es à moi. Esprit, guide-moi là où ma confiance sera totale. Permets-moi de marcher sur les eaux, là où tu pourrais m'appeler, entraîne-moi plus profond que mes pieds ne le pourraient, et ma foi en sera fortifiée en présence de mon Sauveur. Je dirai ton nom et porterai mon regard au-dessus des vagues, mon âme reposera entre tes bras, car je suis à toi et tu es à moi.
Alors, si tu traverses une tempête, si toi aussi dans ta vie, il y a les orages qui se déchaînent et que tu ne sais pas trop comment y faire face, si tu ne trouves pas encore la force en toi d'y faire face, je t'invite à tourner vers la louange, je t'invite à dire à ton Dieu à quel point tu l'aimes, je t'invite à appeler ton Dieu pour qu'il vienne t'aider et vraiment peut-être juste nourrir ton âme. Avec des chants de louanges qui vont pouvoir peut-être mettre des mots là où toi tu n'y arrives pas, et ces chants en fait vont petit à petit t'aider à t'accrocher à Dieu et vont petit à petit t'aider à traverser ces tempêtes et vont être peut-être juste l'essor qu'il va falloir pour que toi aussi tu puisses te lever et tourner un peu plus ton regard vers Jésus et qu'il puisse te, t'élever et t'aider à traverser cette tempête. Voilà.
Amen. Belle idée. J'aimerais vous inviter à prier ensemble. Ouais, Seigneur, tu connais nos tempêtes, les défis qu'on a au quotidien. Ces temps où l'eau commence à vraiment remuer et on se sent comme englouti. Les temps où on est dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'incertitude aussi. Et où on n'est pas sûr de pouvoir s'en sortir vivant. Et on veut s'accrocher, Seigneur, à toi, à ta présence. Merci, Seigneur, d'inspirer dans ce qu'on fait, peut-être des chants, comme le propose Laetitia. Des paroles qui soient pertinentes, qui nous rejoignent là où nous sommes, dans les déserts de nos vies, dans ces tempêtes. Et qu'on apprenne à te faire confiance, Seigneur, à rien lâcher. Qu'on s'agrippe, qu'on s'accroche aussi, Seigneur, à ta parole, à la lecture de ta parole, Seigneur. Il y a beaucoup de promesses aussi où tu promets que tu es notre protecteur, celui qui nous secourt, celui qui vient nous relever, Seigneur. Et on veut te faire confiance, on veut apprendre à te faire confiance, Seigneur. Alors merci de ne pas nous lâcher. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Continue, merci de continuer à saisir notre main et à nous élever sur des marches qui sont plus sécures pour nous, Seigneur. Ouais, merci pour ta présence, parce que tu nous lâches jamais. Dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Eh bien, chers amis, merci pour ce temps de partage vécu ensemble. Merci Léo pour ce partage qui, je pense, va cheminer en nous cette semaine. Merci Laetitia d'être venue témoigner. C'est bon de voir comment Dieu est un Dieu qui est vivant, qui agit et qui se bat à nos côtés. Soit toi et ta famille, soyez abondamment bénis. Merci Marina pour ces encouragements et ces invitations que tu as pu nous faire aujourd'hui. Et à toi qui nous écoutes, sois béni, sois gardé, sois protégé, sois rempli de paix et d'énergie, renouvelé pour vivre cette nouvelle semaine. Voilà, gloire à toi Seigneur pour ces temps que tu nous permets de vivre. Tout bon, comme on dit chez moi, et à la semaine prochaine.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.